sais maintenant de quoi je suis en partie fait. Je sais comment j'ai été conçu. Ça libère. J'aime bien employer ce mot, fixer. Voilà, on passe à autre chose, on sait, ça calme.
RFI, grand reportage.
Cette émission est une rediffusion.
Connaître ses origines, connaître le nom du donneur de gamètes qui a permis sa conception, ce sera désormais possible pour les futurs enfants nés par PMA grâce aux nouvelles lois de bioéthique votées en France. PMA, la fin des secrets, c'est un grand reportage de Frédéric Lebel.
Oui, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Il lui aura fallu attendre 41 ans. 41 ans avant de comprendre quel était le poids de ce secret, celui de ses origines. Akram a été conçu par insémination avec donneur, une révélation qu'il compare à un coup de tonnerre qui l'a finalement libéré.
Apprendre son mode de conception a été pour moi une forme de soulagement et de libération. Mais très vite, dans le deuxième temps, il y a, à cause de l'anonymat, l'impossibilité de savoir qui c'est. Et ça, ça génère et de la colère et de la frustration. Et une frustration assez importante. Pourquoi il y a cette frustration? Parce qu'on se retrouve dans le flou. On se retrouve à pouvoir imaginer tout et n'importe quoi, à fantasmer sur tout et n'importe quoi. C'est plaisant si on a envie d'écrire un roman, parce qu'on peut s'imaginer beaucoup d'histoires. Je peux marcher dans la rue et me dire... Si ça se trouve, c'est un médecin. Si ça se trouve, c'est un marchand d'armes. Si ça se trouve, enfin voilà. Et on peut s'amuser avec ça, mais ça repose pas, ça n'apaise pas. Et dans mon cas, moi, j'avais besoin de fixer les choses.
Parce que c'est vrai qu'on parle de ces tests comme ça, et parfois on a du mal à se les représenter. Bon, sur YouTube...
Chercher son donneur n'est pas impossible à l'heure des tests ADN. Officiellement, ils sont interdits en France, mais pour 60 euros et quelques échantillons de salive, des plateformes américaines vous délivrent votre carte d'identité génétique, et le hasard et la chance font que votre profil peut présenter des correspondances avec d'autres clients. C'est ce qui est arrivé à Akram.
Quasiment un an, jour pour jour, après mon inscription sur une plateforme, on y va régulièrement pour vérifier s'il n'y a pas de nouveaux résultats qui sont tombés. Et là, je renouvelle la page, et là apparaît, c'était le 1er juillet dernier, apparaît une correspondance significative, une personne avec qui je partageais 26% de mon ADN. Et donc la plateforme me dit relation suggérée, demi-frère ou oncle. Et là, je m'en souviens très bien de ce moment-là. C'est, on a le cœur qui commence à s'accélérer. On devient un petit peu tremblant. On se dit bon, voilà ce pourquoi je, ce que j'attendais ou ce que j'espérais se manifeste pour la première fois.
Une certaine peur ou pas?
Une excitation. Je dirais pas une peur.
Depuis, Akram a rencontré plusieurs fois son demi-frère et sa demi-sœur, pas encore leur père, qui est aussi son donneur. Il faut laisser du temps au temps. Cette enquête pour retrouver ses origines, c'est aussi celle de Camille. Elle parle pour sa part d'un puzzle qu'elle a réussi à terminer.
Pour ma part, j'ai fait donc un test ADN, et ce test ADN, au bout de quelques mois, m'a appris l'existence d'une cousine qui est anglaise. Ensuite, on a fonctionné tout simplement par élimination, puisqu'elle étant anglaise, toute sa famille n'avait pas eu de lien avec la France, ou en tout cas ne s'était pas installée en France ou quoi ou qu'est-ce. Et puis, elle a été adorable, puisqu'en fait, elle s'étonnait d'avoir une cousine française. Je lui ai expliqué l'histoire derrière ma conception. Elle m'a dit « Ah oui, bah, pas de souci, je vais t'aider, etc. » à identifier cette personne. Et donc, on l'a identifiée dans son arbre généalogique. Cette personne était déjà assez âgée. On a pris la décision de tester également son père à elle pour bien valider notre hypothèse, etc. On ne voulait pas en fait informer sans être sûr à 100%. Et moi, il y a quelque chose qui est primordial pour moi, c'est que le donneur n'est pas un père. Je me permets de le rajouter et de le rappeler. Ce donneur n'est absolument pas, en aucun cas, on est en recherche d'une figure paternelle. Mon père, je l'ai, c'est mon papa et ma maman, c'est des personnes qui m'ont voulu, eu, etc. Donc voilà, on ne voulait pas s'immiscer dans la vie de cette personne, mais voilà, vous faites comme vous voulez en fait. J'existe, je sais qui vous êtes, j'ai vu une photo, j'ai déjà beaucoup d'informations, je serais ravie de pouvoir potentiellement vous rencontrer peut-être, et peut-être qu'en fait je ferai machine arrière, j'en sais rien. Et malheureusement, le donneur est décédé avant que l'on puisse le contacter. Donc voilà, l'histoire a fait que je ne le rencontrerai pas.
Akram, tout comme Camille, ont fait le déplacement ce samedi pour l'Assemblée Générale de PM Anonyme, une petite association qui demande depuis des années la fin de l'anonymat des donneurs.
Donc je me dis c'est assez miraculeux. Alors, je ne pense pas que ce soit miraculeux. Hein. Cette décision politique elle n'aurait pas pu être prise quand même malgré tout si le travail de l'asso en partie n'avait pas contribué à ça. Donc il manque.
Cette année 2019 est à marquer d'une pierre blanche pour Vincent Bresse, le président de l'association pendant ces trois dernières années, l'aboutissement d'un combat.
À partir de quand vous avez dit, moi, il faut que je fasse bouger les choses, il faut que je devienne militant, en fait?
Alors ça, c'est mon histoire personnelle. J'ai voulu le faire très rapidement, dès que j'ai su en fait que j'ai été conçu par don, ce qui m'est arrivé très tardivement. Hein. J'avais 30 ans et il y avait peu de choses qu'on pouvait trouver sur Internet, mais il y en avait quelque chose. Il y avait peu de livres aussi, et c'est notamment en regardant une vidéo avec Irène Théry où elle parlait d'injustice et d'une certaine violence faite à ces enfants-là, que je me suis dit, ben oui, c'est une injustice et je ne la supporte pas, même si, alors bien sûr, elle s'applique à moi, donc j'étais le premier concerné, et c'est un peu comme ça que mon histoire militante a commencé.
Pour finir, voilà, je voudrais avoir mes deux marraines.
Et justement, dans la salle se trouve Irène Théry, sociologue de la famille, marraine de cœur de l'association. Elle observe avec intérêt l'évolution de la législation depuis les premières lois de bioéthique en 1994.
On vous disait, le triptyque du modèle bioéthique français, c'est anonymat, gratuité, consentement. Et le travail qu'il fallait faire pour se dire, mais cet anonymat qu'on nous présente comme la crème, de ce qu'il y a de plus éthique, rejoint en fait une forme d'anonymat qui n'a rien d'éthique, c'est-à-dire l'homme caché derrière le paravent du cabinet de gynécologue, les secrets de famille, toute une très longue histoire où le secret, le mensonge n'avait rien d'éthique. Et il y a eu une difficulté d'arriver à comprendre que justement, derrière les grands mots du modèle bioéthique français, il y avait une question à se poser et dont le centre était le secret à l'égard de l'enfant.
Comme si la science avait incroyablement évolué, mais que le législateur avait voulu préserver une vision extrêmement classique, traditionnelle de la famille. On ne voulait pas s'interroger sur la notion de famille.
Au départ, je crois qu'il y a vraiment eu de la part à la fois des premiers initiateurs des SECOS, il y avait une conscience que ça n'était pas évident, justement qu'il y avait une condamnation sociale. Il faut imaginer qu'à l'époque, l'Académie des sciences morales et politiques disait « on introduit un enfant adultérin dans la famille ». Il faut imaginer que l'Église disait qu'elle était opposée au don et qu'on ne devait pas faire une famille de cette façon. Donc on a voulu protéger. Et peu à peu, il s'est avéré que, en fait, l'État, les médecins participaient d'une politique du secret et même du mensonge qui allait très loin. Par exemple, pour protéger, prendre un donneur qui a le même groupe sanguin que le père stérile, c'est uniquement fait pour que l'enfant, quand il arrive en classe de 3e, à l'époque c'était en classe de 3e, et qu'il est en SVT, ne se doute pas du mensonge dans lequel il vit. Le groupe sanguin, là, c'est vraiment fait pour organiser un subterfuge.
On a vu Sylvain Maillard, c'était Pauline, en août 2018. On a vu Jean-François Mbaye plein de fois.
Remettre l'enfant au centre, une révolution copernicienne. Mais le gouvernement ne veut pas aller jusqu'à modifier le mode de filiation. Le donneur reste toujours invisible. Seul le père d'intention y figure. Quant aux quelques 80 000 Français qui sont nés par PMA avant la loi de 2019, rien ne change ou presque pour eux. La commission mise en place pour enregistrer les identités des nouveaux donneurs n'a pas vocation à chercher les anciens. Vincent Bresse.
Ce qu'on demandait, c'était d'abord de pouvoir contacter les anciens donneurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui fait question, parce que le législateur, il a su le faire pour les personnes nées sous X il y a 20 ans, quand il a permis de au moins poser la question à la mère d'origine, de savoir si elle était prête à en dire plus à ses enfants qui avaient été abandonnés. Alors, dans le cadre de la PMA avec don, on comprend pas bien où est le problème. Les personnes nées de don, elles n'ont pas été abandonnées. J'ai envie de dire même, il y a peu de gens qui sont plus aimés que ces personnes, plus désirés que ces personnes. Donc, en quoi c'est difficile d'accéder à cette demande-là? On l'a pas bien compris.
C'est bon, t'as eu des trucs?
Sylvie, mère d'enfants conçus par IAD.
Rassemblés dans un même cercle de parole des enfants nés par PMA avec don, des mamans qui ont été inséminées et des donneurs qui ont accepté de sortir du bois, c'est la magie de certains groupes de parole qu'organise l'association. Joseph est grand-père, il y a 35 ans, il a aussi donné son sperme. Aujourd'hui, il veut devancer la loi.
Il y a une dizaine d'années, quand j'ai découvert qu'il y avait vraiment des souffrances chez un certain nombre de jeunes conçus grâce à un don, j'ai souhaité favoriser la transparence. Et comme j'aime à dire, si on me cherche, on peut me trouver. Je souhaite être visible. Bon, je n'attends absolument rien. Ayant déjà 3 enfants et 7 petits-enfants, je n'ai aucune carence affective ou d'ordre familial. Hein. Mais je souhaite pouvoir assumer jusqu'au bout la démarche que j'avais entreprise il y a 35 ans. Hein, ça. Il s'agit pour moi d'une dette morale vis-à-vis des enfants qui ont, des personnes qui ont été conçues grâce à mes dons. Hein. On ne se posait pas de questions à l'époque, c'était comme le don du sang. On n'imaginait pas les progrès de la génétique qui interviendraient plus tard.
Il n'y a pas d'abandon, il n'y a que du don.
Donc là, l'idée, c'est vraiment d'encourager les futurs parents qui sont en parcours de PMA de le dire à leur enfant.
Quand moi, j'ai décidé d'avoir recours à ce processus, nous, les médecins, nous avaient bien dit qu'il ne fallait absolument pas le révéler à l'enfant.
Carole, mère de Pauline et Mathis, conçue dans un CECOS, un centre public d'études et de conservation des œufs et du sperme humain, il y a presque 20 ans, une autre époque.
Je pense qu'on n'a pas été assez accompagné, oui, c'est sûr. Oui. Surtout pour le père, oui.
Vous en parliez tous les deux?
Peu, oui. Mais moi, j'avais tellement un désir d'enfant que de toute façon, je pense que j'aurais fait... je sais pas quoi, mais mon désir d'enfant était trop... Il était très fort, quoi.
À ses côtés, son fils Mathis, submergé par ce récit, et l'émotion quitte la salle.
Je pense que pour l'instant, il n'est pas prêt à encore à entendre. Oui, moi, je trouve que ça l'a bouleversé ce matin. Il ne voulait pas prendre la parole du tout. Et...
Il ne sait pas encore ce que ça lui fait. Il ne sait pas forcément comment réagir par rapport à ça, quelles sont les bonnes émotions.
Et il l'a appris récemment ?
Il l'a appris juin l'année dernière, pour ses 18 ans. On s'était retrouvés tous les quatre avec mon ex-mari et puis sa sœur. Et on lui a communiqué intelligemment, je pense. Enfin,
et en plus de tout ça, ce qui est compliqué pour la personne conçue, c'est...
Pour Sylvie, mère d'un enfant né par PMA, la scène renvoie le souvenir d'un autre tsunami émotionnel.
Oui, je pense que le fait que Mathis ait des difficultés à en parler me rappelle le jour où nous avons dit à mon fils l'origine de sa conception. Il avait 20 ans et il a été très ému, il n'a pas compris sur le moment, il a fallu que mon mari redise la chose. Et nous étions au restaurant, et lui aussi, il est parti. Il a dit, est-ce que je peux prendre la voiture? Et je vais le dire à mon frère. Et mon mari avait très peur de ne plus être aimé par son fils. Pendant longtemps, il a souhaité ne pas le dire. Et 4 ou 5 heures après, il est revenu avec son frère. Et il a dit à son père, tu sais, je t'aimerais aujourd'hui et hier et demain autant qu'hier. Et ça a été un immense soulagement, une immense émotion, un immense cadeau qu'il nous a fait. Et son frère a renchéri en disant « Mais c'est formidable ce que vous avez fait ». Et ce que je dirais quand ces jeunes apprennent le secret, ils sont tout chamboulés, tout bouleversés dans leur identité par rapport à l'expression d'affection vis-à-vis des parents. Mais en même temps, c'est une façon de voir sa vie un peu autrement, sous d'autres angles. Cela introduit de la complexité là où c'était simple. Mais au bout du compte, si j'en crois ma propre expérience, il me semble que notre vie à tous s'est enrichie.
Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Merci.
Au bas de l'immeuble, on retrouve justement le fils de Sylvie. Les années ont passé, Guillaume a 36 ans. Et comme 120 autres membres de l'association, il a retrouvé par le biais des tests ADN une demi-sœur, Marion, née du même donneur.
Je pense que, ouais. On partage un tiers, c'est énorme, 30% d'ADN en commun. Ça me renvoie au questionnement de qui je suis. Marion, c'est aussi un peu qui je suis. Même à travers ses enfants, je regarde ses enfants, je me dis, tiens, on partage beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, c'est des demi, des demi-neveux. C'est voilà, je suis un demi-tonton.
Voilà.
Voilà. Non, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression
qu'on verra, quoi.
Tu sais, genre, t'as passé le premier round, après t'as le deuxième round, clair. Et tu sors avec ta carte.
Pour l'occasion, Marion a fait le voyage à Paris depuis Avignon. Retrouver Guillaume relève pour elle plus de la curiosité que du bouleversement.
Moi, je l'ai appris très récemment, un peu avant mes 40 ans, en fait, donc il y a moins d'un an. Après, je pense que pour moi, justement, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, ma vie, elle est établie, tout va bien. J'ai fait des thérapies plus jeunes pour d'autres choses, donc je suis au clair là-dessus. J'ai pas de problème d'identité. Mon identité, elle est pas dans ce mode de conception, enfin dans le donneur, tout ça. Donc pour moi, c'est pas un énorme bouleversement, en fait. Je savais que mes parents avaient eu du mal à avoir des enfants, enfin un enfant, puisque je suis fille unique. Donc je savais qu'ils avaient suivi un parcours long, très long, plus de 15 ans, donc voilà. Après, la médecine, moi je croyais à la conception naturelle sans me poser plus de questions.
Donc le secret, il a duré 40 ans.
Le secret a duré 40 ans et il était total. C'est-à-dire qu'il n'y a que mon père et ma mère qui étaient au courant, absolument personne d'autre dans la famille, leurs amis très proches, personne. Je sais que plusieurs fois, ils se sont dit qu'il fallait me le dire, que c'était pas bon. Et j'ai l'impression, d'après ce qu'ils me racontent maintenant, qu'à tour de rôle, ils se sont dit non, ça serait pas bon, en fait. Non, ça serait pas bon. Ma mère voulant protéger mon père, elle va de peur que je le rejette. Mon père voulant protéger ma mère aussi de sa famille à lui. Enfin, tout un tas d'interactions qui ont fait qu'ils l'ont jamais dit pendant 40 ans.
Et vous, en moins d'un an, vous mettez tout le monde au courant.
Ah oui, mais moi, le secret, c'est quelque chose d'intolérable, en fait, de pas viable. C'est très lourd et pesant. C'est quelque chose que je souhaite pas du tout avoir dans ma famille à moi. Donc, avec mon mari, on est très clair là-dessus. Il n'y a aucun secret. On se dit tout. À nos enfants, on explique tout. Il y a absolument rien n'est tabou et rien n'est secret. Ça, c'est un point déjà avant et là, d'autant plus qu'il y a cet énorme secret qui me paraît tellement dingue que oui, moi, j'en parle à tout le monde. Le jour où je l'ai appris, j'ai déjeuné avec deux amis et on en a tout de suite parlé. C'est le premier truc que je leur ai dit. J'ai un scoop à vous dire. Il y en a une qui m'a dit « Ta mère est pas ta mère ». Je fais « Non, c'est mon père ». Et donc voilà, après j'en ai parlé à absolument tout le monde. Ouais.
Après de multiples recherches, Guillaume a retrouvé celui qui pourra être leur probable donneur. Un ancien étudiant en médecine. Avec Marion, ils ont chacun écrit une lettre, mais ils n'ont pas obtenu de réponse.
PMA, la fin des secrets. Un grand reportage de Frédéric Lebel. Réalisation Eva Piedel, un magazine à retrouver sur le site de RFI.
Appel sur la...